Au matin d'une ère nouvelle, j'avais l'esprit très libre. Mon écoute créait en moi comme une ivresse, une impatience d'aboutir à des formes exemplaires. L'azur et la terre ocre et blanche exaltant ma joie de vivre. Je m'en voulus d'avoir laissé passer du temps sans faire effort de ce côté. À 11h, avant que Paul ne revînt de l'école, je descendis vers le village où j'achetais de la couleur en poudre, de l'huile, du sécatif, des pinceaux, une étoffe de lin grossièrement tissée, et je ne cachais pas à qui voulut m'entendre que j'étais un artiste. Mes paquets sous le bras, j'escaladai les rocs. L'étoffe bien étendue sur le ciment et maintenue en place par des poids. La couleur préparée dans des boîtes de Nescafé posées sur des journaux. Je commençais de peindre quand arriva l'enfant qui s'appuya doucement contre la porte. Visiblement, tout lui plaisait ici. À contre-jour, il avait l'air comme un ange d'annoncer d'heureux événements. Il remplit de couleurs un des carrés de mon étoffe. Sa présence, comme sa jeunesse, était de bon augure. Humblement, il entrait dans mon chêne. Ce carré-là, pensais-je, sera de lui. Bleu céleste comme l'azur de ce matin de mars. Arriva Paul. Le plaisir de manger sur les marches compensait l'absence de sel dans la soupe. Paul réduisait la cuisine au minimum. Il alluma des lampes à alcool sans jeter les yeux sur mon étoffe de 3 mètres de côté, comme furieux de n'être plus chez lui. Puis, passant d'un sentiment à l'autre, il souhaita vivement qu'achevée, elle demeura dans sa maison. Je lui promis de faire vite, il descendit vers l'école, je branchai la radio. H. Rien à signaler. À vous. À moi, en effet, de maintenir l'écoute. Attendre. Être prêt et dans la solitude ou presque. Jusque vers 4h, je peignis avec le plus grand soin, à genoux sur le ciment. Quand tout fut achevé et l'étoffe clouée contre un mur à l'extérieur de la maison, je me roulais une cigarette, non sans mal, car j'avais les doigts gluants de cicatif. Paul fut enchanté. Cette œuvre abstraite encore humide, violemment géométrique, tranchait contre la pierre. On eût dit le symbole de notre vie sauvage. Il passait vite d'un désir à un autre désir, qui voulait être aussitôt satisfait. Il me jeta entre les mains une carabine automatique. Il prit un fusil. Et nous partîmes sous un ciel rouge et or, tandis que le froid venait avec la nuit. Pendant l'hiver, nous avions déjà chassé de ce côté, dans une vallée marécageuse inhabitée, la Beune, creusée dans le roc, en partie impraticable, tant à cause des eaux d'un ruisseau que du fait de l'enchevêtrement des roseaux, que Paul, qui marchait devant moi, écartait doucement de la pointe de son fusil. Il adorait la chasse, sans permis, au point de disparaître à mes yeux, de s'évanouir parmi les herbes sèches à la poursuite d'un oiseau, pour ne réapparaître qu'après un coup de fusil qui avait résonné faiblement dans cette brousse épaisse. Abandonnée à elle-même, la Beune avait un charme. Paul était chasseur dans l'âme, autant que moi. À l'affût parmi les hampes des roseaux qui tremblaient au léger vent du soir. Les ruines du château de Comarque se dressaient au bord d'une colline. Dans cette vallée déserte, l'hiver rencontrait la douceur du printemps. Nos doigts sentaient la poudre, nos coups de feu claquaient devant les rocs. Nous avions soif. Après avoir bu un peu de vin, comme nous étions sur le point de revenir, à nouveau j'eus peur de lui. Sa silencieuse exaltation me fit craindre le pire. De mon côté, j'étais ravie par la chasse, par les premières étoiles. Il se lavait les mains dans une source. Le regardant bien en face, je pris mon couteau, me l'enfonçait dans le bras, sciant la chair jusqu'à ce que du sang coulât parmi les pierres. Ce sacrifice exaspérait sa joie, son plaisir de vivre avec moi, qui devenait une tendresse confuse, vaguement fraternelle, qui l'apaisait, qui lui faisait du bien. Mon sang se mêlait aux eaux pures de la source, il y pencha son visage et but très lentement. Nous retournâmes aux Aisies.